Bonjour.
Alors, vous participez à ce film, ni d'Ève ni d'Adam, vous témoignez, parce que vous êtes vous-même intersexe. Ça veut dire qu'à votre naissance, vous aviez des caractéristiques tant masculines que féminines ?
Quand je suis née, j'avais... Enfin, en fait, dans mon cas, mes parents ont su que j'avais des chromosomes XY, du coup, ils s'attendaient à un garçon. Et du coup, quand je suis née, ils se disaient « Ah, c'est une fille !» Et voilà, c'était un peu le problème. Mais en fait, c'est pas ça l'important. En fait, les variations intersexes sont des variations du vivant. Et puis, elles sont de plein d'ordres différents. Donc, du coup, des caractéristiques sexuelles... En fait, quand on parle de personnes intersexes, on a souvent l'idée de l'hermaphrodite. Et en fait, c'est mythologie, cette idée de l'hermaphrodite. Les personnes intersexes, c'est des variations qui sont d'ordre hormonal, chromosomique, donc XX, XY, XXY, X0, ou alors avec le sexe interne ou externe. Donc ça peut pas forcément se voir à la naissance, ça peut se découvrir à la puberté, même après, ça peut se découvrir à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà, dans mon cas, ça s'est découvert à la naissance, mais c'est pas le cas pour la majorité des personnes.
Donc ça veut dire que ce qu'on peut croire, c'est que vos parents ont dû, à votre naissance, choisir si vous deviez être une fille ou un garçon, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé.
En fait, dans certains cas, c'est beaucoup moins sûr de savoir. On arrive beaucoup moins facilement à signer un sexe avec les critères qu'on a habituellement. C'était pas forcément dans mon cas, mais dans certains cas, c'est le cas. Mais en fait, dans beaucoup de cas de personnes intersexes, en fait, ça se découvre. Enfin, c'est facile à assigner un sexe d'après les critères habituels. Donc, on écarte les jambes d'un bébé et puis on dit ah c'est une fille ou ah c'est un garçon. Mais en fait, le sexe, comme on l'entend, c'est pas juste des organes génitaux. Il y a aussi du sexe qui est à l'intérieur. Donc, est-ce que la personne a des ovaires, des testicules? Est-ce qu'elle a un utérus? Est-ce qu'elle a des chromosomes XX, XY, XXY? Et en fait, on se rend compte que ça, c'est des choses qui sont vraiment, enfin, assez fréquentes, des variations qui sont assez fréquentes. On parle de 1,7% de personnes qui sont intersexes de la population mondiale. Si on fait 1,7% de la population suisse, ça représente la ville de Lausanne.
Et c'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Et je pense que tout le monde connaît une personne qui vient de Lausanne, ou qui a vécu à Lausanne, ou qui travaille à Lausanne. Et en fait, je pense que la majorité de nous ne connaît pas de personne qui est intersexe. Et en fait, ça montre aussi tout le tabou et le secret et l'invisibilisation sociale, médicale, qu'il y a autour de ces questions-là, et aussi l'importance, en fait, de visibiliser les questions intersexes.
Alors, il y a ce film, Ni d'Ève ni d'Adam, qui donne une visibilité, qui est un documentaire très touchant, qui a reçu plein de prix un peu partout. Alors, dans ce film, il y a plusieurs personnes intersexes qui ont comme point commun, bon, déjà de témoigner, et puis d'avoir appris par leurs parents, tout d'abord, qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Et puis, c'est comme ça que les parents ont amené le sujet de l'intersexuation sur le tapis. Pour vous, ça s'est passé de cette façon-là ?
Pour moi, ça s'est passé de cette façon-là aussi. Mais c'est pas le cas pour toutes les personnes intersexes à nouveau. Enfin, c'est vraiment, c'est des variations qui
sont tellement vagues. On va pas généraliser.
Mais dans mon cas, c'était le cas. Mes parents ont eu une façon assez chou de me le dire. Avec ma sœur, on jouait tout le temps à la poupée. On mettait des poupées sous notre ventre et on accouchait. Et mes parents se sont regardaient ça d'un mauvais œil. Ils disaient, mais comment on peut lui expliquer à 15 ans, 16 ans qu'elle pourrait avoir d'enfant si on la laisse jouer avec la poupée comme ça? Et du coup, ils m'ont dit que je devrais adopter. Et avec ma sœur, du coup, on mettait les poupées sur une bibliothèque et on s'amusait à les acheter. Mais donc, du coup, c'était une façon très pédagogique, en fait, d'introduire, en fait, le sujet. Et voilà. Mais ça n'empêche pas, en fait, qu'il y a beaucoup de choses que j'étais pas au courant, en fait, sur la vérité de mon histoire et puis de pourquoi j'allais à l'hôpital régulièrement, pourquoi je prenais des hormones. Et donc, il y avait toujours encore une invisibilisation. Mais mes parents ont essayé de briser le tabou le plus vite possible et je pense que c'est une bonne chose.
Parce qu'évidemment, vous sentiez à un moment donné que vous deviez aller chez le médecin et il se passait quelque chose. Mm-hmm. Pour vous, il y a eu un moment de vie un petit peu complexe aussi.
Ah oui, clairement.
Enfin, je dis un petit peu complexe. Hein,
oui, pas... mais en fait, personnellement, j'ai subi quelques opérations et des traitements hormonaux. Et en fait, quand on m'expliquait à l'hôpital pourquoi j'avais ces traitements, on me disait « Ah, tu as des gonades qui produisent des androgènes, mais ton corps, il est résistant. » Et j'avais 8 ans et j'écoutais ça.
Ah,
j'étais
ouais,
là « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps ?» Et du coup, je me suis dit « Je ne vais pas en parler, je ne vais pas le savoir, je ne vais pas écouter. » Et c'était quelque chose... Donc du coup, en fait, je mettais moi-même dans l'ignorance parce que je me rendais compte que c'était quelque chose qui pouvait me faire du mal. Parce que quand on m'en parlait, il y avait vraiment un malaise, en fait, dans la salle. Et voilà. Mais... En fait, c'est quelque chose qui est assez unificateur de toutes les personnes intersexes, au-delà des opérations. En fait, c'est vraiment une espèce de... Une violence médicale, en fait. C'est des médecins qui ont des propos qui sont pas justes, qui isolent ou qui stigmatisent ou qui pathologisent. Parce qu'en fait, les personnes intersexes, c'est des personnes qui sont saines. Il y a peut-être des variations où il y a des problèmes de santé, mais c'est pas la majorité. Et c'est pas la variation intersexe qui a le problème de santé, c'est juste un petit truc à l'intérieur de la variation intersexe qui est le problème de santé.
Donc, on est dans une société, on reviendra tout à l'heure sur les médecins, mais finalement, on est dans une société binaire. Il y a des hommes, il y a des femmes.
Oui.
Et il n'y a pas de place pour ceux qui ne sont ni hommes ni femmes.
Mais en fait, les personnes intersexes, donc quand on parle d'hommes et de femmes, on parle d'identité de genre. Et donc, les personnes intersexes, elles peuvent avoir toutes les identités de genre qu'elles veulent, ou qu'elles ont, enfin, comme toutes les autres personnes, en fait. Parce que, en fait, ce qu'on se découvre, c'est que les caractéristiques sexuelles, elles n'ont pas de genre. Et qu'en fait, on peut s'identifier comme on veut, mais avec les opérations, des traitements hormonaux qui sont faits sur les personnes intersexes, en fait, on va essayer de leur assigner un genre et on va se dire, ben, si on fait qu'elles ressemblent à 100% au sexe qui leur a été assigné, elles ne vont pas se poser de questions identitaires. Mais en fait, c'est faux. Comme toutes les personnes trans aussi, elles se posent aussi des questions identitaires. Et voilà. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les personnes intersexes. Moi, je ne me suis jamais posé de questions identitaires. Je me suis toujours été plutôt à l'aise avec mon identité féminine, et c'est tout à fait légitime pour une personne intersexe de ne pas être non-binaire ou de ne pas s'identifier à un entre-deux.
Et des personnes concernées, il y en a plus qu'on l'imagine, hein, on le disait tout à l'heure, Audrey Guerter, 1,7% de la population est intersexe, vous le disiez, pour la Suisse ça correspond à la ville de Lausanne. Et puis, moi ce que j'ai trouvé fou en allant sur votre site, c'est de voir qu'il y avait un questionnaire que vous proposiez pour savoir si on était intersexe ou pas. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont intersexes, qui ont peut-être subi des opérations, des traitements enfants, mais on ne leur a jamais dit qu'ils l'étaient.
Oui, personnellement, moi, on m'a jamais dit que j'étais intersexe. souvent, dans le corps médical, on parle de variation. On parle de syndrome, pardon. Ça, c'est variation, c'est nous qui disons ça. On parle de syndrome, donc on va dire, ah, t'as un syndrome d'insensibilité aux androgènes, t'as un syndrome mental, t'as un syndrome... Enfin, n'importe, il y a plein de syndromes possibles et imaginables. Et donc, du coup, on est de loin à s'imaginer intersexe. Et même quand on se pose... J'ai entendu des personnes qui disent, ah, est-ce que je suis hermaphrodite? Parce qu'encore, le terme intersexe, c'est pas forcément quelque chose qui est... qu'on connaît, on va dire non, pas du tout, t'inquiète pas. En fait, il y a vraiment ce truc où on aimerait dire aux gens, en fait, t'es une fille ou t'es un garçon normal. Et au final, qu'est-ce qu'est la normalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est normal? Et dans les variations...
Pas ici.
Pas la RTN. Ouais, non, mais vraiment, il y a plein de personnes qui se posent des questions si elles sont intersexes. Et souvent, quand on reçoit des messages ou des appels, parce qu'on a une centrale d'appel aussi, de personnes intersexes ou en questionnement, elles vont nous dire, écoutez, moi j'étais chez le médecin, il m'a dit ça, j'ai des cicatrices ici, je pense ça et ça, est-ce que je suis intersexe? Et nous, on n'a pas la légitimité de dire, bien sûr que t'es intersexe, parce que, à moins qu'ils nous disent, ah, moi j'ai ce syndrome-là, et qu'on sait que c'est une variation intersexe, on peut pas dire ça, parce que c'est à la personne elle-même de faire son chemin, mais on peut l'écouter, et en fait... On parle souvent dans la communauté intersexe que quand quelqu'un nous dit « je pense que je le suis, mais je ne suis pas sûre », c'est qu'il y a quand même de fortes chances que cette personne le soit.
Là, on parle des aspects physiques, mais c'est vrai que tout à l'heure en antenne, on vous posait la question. Dans la tête, comment ça se passe, la construction identitaire, l'adolescence? Il y a quand même, déjà c'est difficile pour un adolescent qui ne serait pas intersexe, mais alors pour un adolescent qui l'est, c'est encore plus compliqué.
En fait, les questions identitaires, les personnes intersexes, elles les ont de la même manière que toutes les personnes diadiques, donc pas intersexes. Toutes les personnes se posent des questions identitaires, enfin, ont la légitimité de se poser des questions identitaires, du moins. Et il y a des personnes intersexes qui se sont jamais posé la question, est-ce que je suis vraiment une fille ou est-ce que je suis vraiment un garçon? Parce que pour elles, toutes les injonctions féminines ou masculines, c'était quelque chose avec lesquelles elles arrivaient à s'identifier. Après, il y a une autre partie de personnes intersexes, comme chez les personnes diadiques, qui est aussi transgenre. Et voilà. Et en fait, c'est pas plus difficile pour elle que pour une autre personne de se poser ces questions identitaires-là. C'est quelque chose qui est difficile en soi. Hein. Par contre, ce qui est difficile, c'est justement le fait qu'on essaye de nous... En fait, on nous laisse pas la possibilité de se poser ces questions-là parce qu'on nous met dans la tête, à longueur de rendez-vous médical, que si tu es une fille normale, si tu es un garçon normal, ne t'inquiète pas. Et en fait... ça ne permet pas à la personne de se sentir bien, parce que pour se sentir bien, pour être émancipé, on doit avoir la légitimité de poser toutes les questions qu'on veut. Finalement, c'est notre corps, c'est notre identité, on fait ce qu'on veut avec son corps. Et donc, du coup, avec les opérations, les traitements hormonaux, qui sont souvent faits de manière non consentie, ou en tout cas pas d'une manière éclairée, en fait, on nous enlève cette possibilité-là de se poser les questions et d'être légitime de se les poser.
Est-ce que selon vous, le monde médical doit changer sa façon de prendre en charge les familles? C'est pas pour attaquer le monde médical, mais le jour où le monde médical pourra dire clairement les choses, ça va mieux entrer aussi dans l'esprit des gens.
Mmh. En fait,
les protocoles... C'est un chemin aussi, hein, finalement.
Oui. Les protocoles médicaux, en fait, ils ont commencé dans les années 50 avec John Money, qui s'est fait d'une expérience absolument folle. Et en fait, de là, comme ça vient des États-Unis, tout le monde a écouté ça. Et de là, on a commencé à opérer les personnes intersexes en disant, faut que ce soit fait le plus vite possible pour pas que la personne le sache, parce que si elle est bébé ou si elle est enfant, elle va pas s'en souvenir, en fait, ces opérations-là. Faut que ce soit fait dans le secret. Dans le tabou, faut pas qu'on en parle. Et en fait, tout ça, c'est fait pour que la personne puisse avoir des rapports sexuels qui sont hétérosexuels. Maintenant, on se rend compte que la prise en charge médicale, elle a changé quand même un petit peu, heureusement. Il y a souvent des équipes pluridisciplinaires, donc il y a un généticien, il y a un endocrinologue, il y a un chirurgien, il y a un assistant social peut-être, ou un psychologue, n'importe. Mais en fait, ça reste toujours c'est pluridisciplinaire, mais c'est pluridisciplinaire médical. Et en fait, quand on est intersexe, ou quand on est un parent d'un enfant intersexe, et qu'on se pose ces questions-là, on se dit, est-ce que mon enfant pourrait avoir une vie normale, comme on s'imagine une vie normale, comme on s'imagine une vie épanouie pour son enfant? Et quand on voit tous ces médecins en blouse blanche qui nous parlent des organes génitaux de notre enfant et qui nous disent il pourra pas avoir de bébé, on n'arrive pas à se dire cet enfant va avoir une vie normale. Et du coup, je pense que un des points qui serait important maintenant, ce serait d'avoir une collaboration plus rapprochée avec les médecins, enfin les associations intersexes et le corps médical. Peut-être qu'ils peuvent nous mettre en contact, expliquer qu'il y a cette ligne d'appel, par exemple, d'interaction, mais il y a d'autres choses aussi. Donner des médias, un film, ma page YouTube, des choses comme ça, ou un article dans le journal. Et en fait, de voir un visage souriant d'une personne intersexe qui dit « moi, je suis née intersexe et on m'a opérée et ça m'embête parce que maintenant j'ai des effets secondaires, j'ai ça et ça et ça. » Et j'aurais bien voulu avoir la pleine conscience en fait, de ce qui se passe avec mon corps et puis le choix. Et en fait, je vais très bien, je suis heureuse, je suis épanouie. Et en fait, mon corps, il est magique. C'est quelque chose que je pense qui va faire du bien à tous les parents, à toutes les personnes intersexes. Et ça va aussi enlever un peu cette espèce d'aura négative et dure et lourde qui est dans cette salle, en fait, de médecins.
Alors, il faut commencer peut-être par lever le tabou. Ce que vous faites, notamment avec le film Ni d'Ève ni d'Adam, à voir lundi 3 décembre au Hub à Neuchâtel. On mettra les infos sur la page de Format 3. Également, le lien vers l'association Interaction avec les numéros pour la permanence téléphonique. Et puis, votre chaîne YouTube qui est avec notamment cette vidéo. Madame, il y a une couille avec votre fille. Merci beaucoup, Audrey Gertel, d'être venue ce matin.